France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Musique en ce samedi 21 septembre. Laurent Lefrançois est à la réalisation, Adeline Omello et Emmanuel Rose à la technique. Bienvenue dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie, au plaisir de la musique. Le menu du jour le voici. À 8h05, Christophe Chassol donnera sa troisième leçon de musique. Il nous apprendra à improviser dans le style des compositeurs minimalistes. À 8h15, la chef de chœur Sophie Janin nous racontera ses premiers pas de musicienne. À 8h20, notre reportage. Lucie Pierron nous parlera de Kick-Off, projet d'orchestre amateur que propose la Société Générale à ses employés. Dans sa chronique Battement de cœur, à 8h30, Marc-Olivier Duport nous parlera du parcours pédagogique mené par le Concert d'Astrée. Et puis nous irons également en région, à Lille, à la rencontre de la directrice de l'Opéra de Lille, Caroline Sonrier sera notre invitée. Enfin, Rosine Bachelot nous emmènera au Festival de la Côte-Saint-André. Ce sera en toute fin d'émission. Le premier mouvement de cette sonate juvénile printanière de Camille Saint-Saëns, écrite alors que le compositeur a tout de même 86 ans. On écoutait ici Pierre Génisson et David Bismuth. Pierre Génisson à la clarinette, musicien qui sera d'ailleurs en concert au festival de Fénétrange ce soir à 18h et demain dimanche à 16h, avec à ses côtés la pianiste Anne Lebozek, la soprano Marianne Proulx et le quatuor à Kilon dans des œuvres de Beethoven, Schubert et Mozart notamment. Voilà, si vous souhaitez découvrir, aller entendre ces musiciens en concert, ça se passe donc du côté du festival de Fénétrange. On va écouter à présent à 7h36 une musicienne que j'adore, la violoniste hollandaise Janine Jansen, qui a 15 ans quand elle joue pour la toute première fois le concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn. Elle l'a bien évidemment enregistré par la suite avec rien moins que le propre orchestre de Félix Mendelssohn, le Gewandhaus Orchester de Leipzig, dont le compositeur avait été chef permanent pendant 13 ans, très exactement, au milieu du 19e siècle. En voici le brillant dernier mouvement. Thank you. La violoniste Janine Janssen, bien entourée ici par le Gewandhaus Orchester de Leipzig. Ricardo Chailly à la direction. On écoutait le dernier mouvement, le final de ce concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Je vous propose de gagner ce matin sur France Musique des places pour le Festival Baroque de Pontoise qui se déroulera du 27 septembre au 19 octobre. Alors si vous êtes libre le 4 octobre prochain, nous vous invitons à découvrir Attis en folie, parodie du plus célèbre opéra de Jean-Baptiste Lully, parodie pour marionnettes, chanteurs et musiciens. C'est un spectacle qui est porté par l'ensemble La Clique des Lunésiens qui se tiendra au Théâtre du Figuier Blanc à Argenteuil. Pour gagner vos places pour la représentation du 4 octobre, rendez-vous donc sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous donnez vos coordonnées, puis la bonne réponse à la question qui va suivre. Et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres dans quelques jours. Alors, ce matin, je vous propose de deviner le nom du librettiste d'Attis. Quel est le nom de ce collaborateur régulier de Lully, avec qui il a d'ailleurs créé le genre spécifiquement français de la tragédie lyrique? Trois propositions. Est-ce Philippe Quinault, Simon Rattle ou bien Leonard Bernstein? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
J'ai respecté la célèbre mémoire des héros des siècles passés. C'est enfin que leur nom si fameux dans l'histoire du sort des noms communs ont été dispensés. Nous voyons un héros dont la brillante gloire les a presque tous effacés. Nous voyons un héros dont la brillante gloire les a presque tous effacés.
C'est juste moi, c'est
Oh,
quelques extraits de cet opéra Attis de Jean-Baptiste Lully, interprété ici par les Arts Florissants, William Christie, à la direction. Attis, opéra que nous vous proposons de redécouvrir dans une parodie, tout simplement, pour marionnettes, chanteurs et musiciens, par l'ensemble La Clique des Lunésiens. Ça se passe au Festival Baroque de Pontoise le 4 octobre prochain, au Théâtre du Figuier Blanc à Argenteuil, pour être plus précise. Pour gagner vos places, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer un mail sur francemusique.fr, sur la page de Musique Matin, en répondant à cette question qui est le nom du librettiste d'Attis, cet opéra de Lully. Est-ce Philippe Quinault, Simon Rattle ou Leonard Bernstein? Vous avez encore dans un long moment, bien une heure pour participer, pour tenter de remporter vos places. Alors chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre-disque, un livre pour faire découvrir la musique classique aux enfants. Et aujourd'hui, j'ai jeté mon dévolu sur Monsieur Mozart ou Le Cadeau des Étoiles, qui paraîtra dans quelques jours chez Didier Jeunesse. L'auteur est Karl Norak, l'illustratrice Marie d'Orléans. Ce livre audio s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans et il retrace la vie du compositeur en racontant des anecdotes réelles ou non, avec des extraits de l'œuvre de Mozart à écouter bien évidemment en complément. C'est le comédien François Morel qui nous raconte ce voyage. En voici un extrait.
Sa sœur joue du clavecin. Wolfgang s'intéresse beaucoup à cet instrument. Lui, il vient juste d'apprendre à marcher. Un jour, il est tout seul pour un moment. Vite, il faut en profiter. Il veut jouer sur cette étrange chose. Mais il n'est pas assez grand. Allez les pieds, un effort encore, on va y arriver. Et les bras, et les mains aussi. Impossible. Alors, il ajoute un coussin, puis deux, en avant. Les coussins glissent, paf, il tombe. Quel cirque! Il recommence. Un, deux, trois, oui, du bout des doigts, ça y est. D'accord, ses yeux sont trop bas pour voir où il appuie, mais des notes en sortent. Elles montent comme des oiseaux. C'est la révélation. J'ai joué ça, moi. Quelle jolie mélodie. Et je vais faire mieux très vite. Wolfgang n'exagère pas. À 4 ans, il compose déjà de la musique pour de vrai. Son papa, Léopold, n'en croit pas ses oreilles. Il est son professeur, mais son fils a l'air de tout connaître à l'avance. « Pourquoi es-tu surpris, papa? Ce n'est pas grand-chose, un petit morceau de rien du tout, un menuet. Je l'ai inventé pour m'amuser comme avec un jouet. Bientôt, tu verras, mon papa, je vais passer aux choses sérieuses. »
Un extrait de ce livre-disque « Monsieur Mozart ou le cadeau des étoiles », ce jeune Mozart déjà surdoué, dont on écoutait ici un extrait. François Morel nous racontait cette histoire. C'est un livre-disque qui paraîtra donc dans quelques jours chez Didier Jeunesse. 7h55, autre avant-première ce matin, un extrait du premier disque du Quatuor Hanson, Quatuor à cordes français. 6 ans d'existence et un premier opus qui paraît sous le label Aparté. Son titre, Haydn, All Shall Not Die, c'est le titre de ce double disque qui paraît donc chez Aparté. Au programme, 6 quatuors de Joseph Haydn, un compositeur auquel les musiciens sont particulièrement attachés puisqu'ils les suivent depuis leur début. Ce qu'ils aiment chez Haydn, sa finesse, son humour et puis la variété de caractère. Voici un extrait. Thank you. Le final de ce Quatuor au Bogen 3 numéro 49 de Joseph Haydn, interprété par le Quatuor Hanson sur ce nouveau disque qui paraît chez Aparté en partenariat avec France Musique. Et puis une date à noter dans vos agendas, ce sera le 7 octobre pour le concert de sortie de disque. Ce sera au Café de la Danse à Paris.
Bonjour, c'est Corinne Schneider. Je vous invite sur France Musique à écouter une émission entièrement consacrée à Jean-Sébastien Bach, à ses œuvres, à celles de ses fils, à ses contemporains et à tous ceux qui sont en quelque endroit ses héritiers. Rendez-vous tous les dimanches de 7h à 9h avec une cantate et de nombreuses découvertes ou sur francemusique.fr pour les lèvres tard.
France Musique, le média de référence de la musique classique sur le web en France. Deux sites internet, français et anglais, 7 web radios, une salle de concert virtuelle. Écoutez, réécoutez les podcasts des émissions, les chroniques, les concerts enregistrés en France et ailleurs. Voir, revoir les vidéos de France Musique et toute l'actualité en un clic, francemusique.fr. Et rejoignez toute la communauté France Musique sur les réseaux sociaux.
France Musique.
Vous allez là,
dorer. Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h, c'est l'heure de retrouver notre chroniqueur Christophe Chassol.
Chère auditrice, chère auditeur.
Bonjour Christophe Chassol.
Bonjour Saskia Deville.
Et bonjour Joe.
Bonjour.
Joe qui a 14 ans, qui est un jeune pianiste qui nous accompagne pour cette chronique tout le mois de septembre avec vous Christophe. Alors chaque semaine on apprend un petit truc, un petit tuyau pour mieux jouer au piano. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui ?
Aujourd'hui on va apprendre à improviser comme un minimaliste américain.
C'est tout un programme. T'as déjà joué des partitions de Steve Reich, de
non.
Joe, pas encore ? Ah ça va être une grande première, ah, c'est pas mal ça. Alors comment est-ce qu'on improvise comme un grand compositeur minimaliste américain ?
Eh ben je vais vous montrer ça. En fait, le piano est une percussion. Vous savez, on peut taper dessus et ça, on produit un son directement. Le propre de la musique minimaliste, c'est d'avoir un centre tonal très clair, une tonalité, d'avoir une pulsation constante et d'avancer graduellement, c'est-à-dire au fur et à mesure. Donc ça, c'est un exercice que je vais vous montrer qui est génial parce qu'on peut improviser, on peut rentrer dans une transe, on peut explorer que des petits bouts du piano, explorer les nuances, explorer l'harmonie, explorer le rythme en même temps, tout en s'amusant. Donc c'est fantastique. Alors je vais vous montrer ça. On fonctionne par rebond. Je vais faire une note avec un doigt, puis je vais rajouter une autre note, puis une troisième, puis une quatrième, et le tout va se mettre en place comme une mécanique huilée, quoi, d'une main après l'autre. Par quelle note tu veux que je commence, Joe?
La bémol.
La bémol. Petit la bémol. Alors les nuances déjà.
Là il n'y a qu'un doigt, on va préciser.
Oui, il n'y a qu'un doigt. Quelle autre note tu veux ensuite ?
Si.
Encore après ?
jazz.
Ensuite,
mi bémol. Sol.
C'est quelque chose de, il faut rentrer dans une transe, faut rentrer vraiment dans un, quelque chose de rythmique, faut s'oublier un petit peu. On va déjà essayer sur deux notes. Do et mi, par exemple. Fais-moi un do, je t'ai dit, tu n'y penses plus. Tu l'oublies, et tu, presque tu l'oublies. Do, 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 ti, do. Mets-moi le mi quand tu peux. Ouais. On dirait Terry Riley, ici. Le mi et le fa dièse. Alors, enfin. Très bien, vas-y, continue. Do, mi, fa, ouais, très bien. Essaye un sol. Mi, fa. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Essaye de me faire. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut croiser. Alors il y a un truc, moi j'ai appris ça pas chez les minimalistes mais chez Ravel dans le concerto en sol, on a ça par exemple. Et tu vois, il fait comme ça. Donc les doigts se croisent, tu vois. La main gauche passe au-dessus de la main droite, tu vois. Donc là regarde, quand on faisait ton, tu vas prendre ton do, mais tu vas faire ta main gauche en dessous de ta main droite pardon, va être en dessous de ta main gauche. Et ainsi, tu auras plus de rebond, tu auras plus de. Il va se passer plus de choses. Vas-y. Mets la pédale. Super. Mets un peu de touche noire, s'il te plaît. T'as compris l'idée ?
Oui.
Ça ouvre des portes, hein, ce truc. Hein. Mm. Voilà, tu peux le faire aussi en haut. Hein. Ça vous donne envie, Saskia ?
Bah, ça me donne terriblement envie. Si seulement je savais jouer du piano.
Mais justement...
il n'est jamais trop tard. Hein.
Il suffit de savoir taper en rythme sur quelque chose.
Mais c'est vrai. Ah, oui. C'est vrai que ça a l'air assez simple.
Alors, regardez. Quand on joue avec ses mains, quand on tape des rythmes sur une table, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur un piano.
Mais vous savez quoi, je vais travailler pour la semaine prochaine.
J'espère bien.
On se retrouve tous les trois. Joe, Christophe, merci beaucoup. Et puis je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette chronique sur francemusique.fr. Bonne semaine.
Au revoir.
Bonne semaine, Joe.
Mon œil s'est joué.
Du nouveau disque de l'ensemble Solazzo, ensemble suisse qui a enregistré sous le label Ambronné Édition ce chansonnier de Louvain, chansonnier du 15e siècle qui comprend notamment 49 chansons écrites en français. Certaines sont anonymes, d'autres ont pu être identifiées comme celles que nous venons d'écouter à l'instant. Son titre Ma boucherie, Johannes Ockeghem à la composition. Et sachez que l'ensemble Solazzo interprétera des extraits de ce disque en concert. Ce sera au Festival d'Ambronné demain, donc le 22 septembre à 11h30 du matin.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral, ça ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs, ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir. C'est d'ailleurs par là que tout a commencé pour les musiciens professionnels aussi. Alors ce matin, j'ai demandé à Sophie Janin, chef de la maîtrise de Radio France, de nous raconter ses débuts et l'impact de la musique sur sa vie.
La pratique de la musique est pour moi aussi évidente que de boire, manger, respirer, dormir. J'ai eu cette chance d'avoir cet ingrédient dans ma vie très tôt. Même à ma toute petite enfance, je chantais tout le temps. On avait un piano à la maison, donc je jouais au piano. Et puis je chantais en chœur à partir de l'âge de 7 ans. Donc pour moi, de faire la musique avec les autres, c'est une de mes raisons pour lesquelles je vis. Pendant mes études, j'ai fait la rencontre d'un professeur, de mon professeur, Paul Spicer, au Royal College of Music à Londres. Et c'était à la toute fin de mes études, quand j'étais en spécialisation. Mais j'ai en lui trouvé quelqu'un qui non seulement me faisait confiance, il mettait la barre très très haut dans ses exigences. Et j'ai vu que pour lui, c'était une question de respect. Et jamais il mettait cette exigence dans un ton d'intimidation ou de pression. Mais je me suis retrouvée à, au contraire, pouvoir vraiment livrer quelque chose où j'étais la meilleure version de moi-même. Parce que j'avais quelqu'un qui était derrière moi, et même avec cette exigence-là, et justement peut-être à cause de cette exigence-là, j'étais capable d'avoir des très bons résultats. Quand on apprend la musique, c'est un travail, un chemin à longue haleine. Les découvertes qu'on fait, les avancées qu'on fait, se passent souvent par déclic. Tout d'un coup, ça va mieux. On dépasse un cap. Mais le chemin pour arriver à chaque cap est assez long et laborieux. Donc c'est un apprentissage extrêmement important et parfois difficile parce qu'on est frustré de ne pas arriver à faire ce qu'on veut faire. Et ça apprend à être patient, ça apprend à être assidu et rigoureux. Et pour moi, le seul conseil, je trouve que le parallèle finalement avec les athlètes, avec les sportifs, est très pertinent là-dedans. De s'acharner sans abandonner, jamais baisser les bras. Et avec un petit pas en reculant, en regardant, en isolant les éléments qu'il faut améliorer, ça demande beaucoup de discipline et de ne pas perdre confiance, mais de garder vraiment le cap. Pour les musiciens, instrumentistes ou chanteurs amateurs qui nous écoutent, continuez à faire ce que vous faites, de faire la musique avec les autres, qu'on chante ou quand on joue, c'est une des choses les plus merveilleuses qu'on puisse faire dans la vie. Faites des beaux projets, parce que personne n'est là pour vous arrêter. Donc continuez à faire ce que vous faites et nourrissez le pays et les pays de vos voix et de vos instruments.
Thank you.
Les deux premières des trois chansons du Gaillard d'avant, extrait des chansons de bord d'Henri Dutilleux, interprétées ici par la maîtrise de Radio France et Sophie Janin à la direction. France Musique, il est 8h et presque 20 minutes.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Aujourd'hui, on va s'intéresser à des amateurs peu communs, des employés de banque qui pratiquent la musique chaque semaine dans leur entreprise. Bonjour Lucie Viron.
Bonjour Saskia. Alors tout à fait, aujourd'hui j'ai voulu vous parler du projet Playing for Philharmonie dont la 5e édition a été lancée mardi 17 septembre dans la tour de la Société Générale de la Défense. Playing for Philharmonie, initialement appelé Playing for Playel du temps de la salle de concert dans le 8e arrondissement de Paris, c'est une initiative lancée par la Société Générale et François-Xavier Roth, le chef d'orchestre français, en 2012. L'idée est simple, mais les professionnels et amateurs au sein d'un projet musical commun et travailler main dans la main pour donner 3 concerts dans une des plus grandes salles de concert d'Europe. Caroline Guillaumin, directrice de la communication et des ressources humaines du groupe, revient sur l'origine et l'ADN de ce projet.
C'est une idée qui vient d'un partenariat qu'on a depuis 25 ans à la Société Générale avec la musique classique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise, de travailler autour de ce partenariat. Et puis surtout, on a toujours voulu dans l'ensemble des événements qu'on fait, d'intégrer nos collaborateurs. Donc on n'est jamais sur du partenariat pur financier, on est toujours avec une logique qui est comment j'intègre mes collaborateurs dans tout ce que je fais. Et c'est comme ça qu'est né Playing for Philharmonie.
Mais comment s'organisent-ils ?
Alors les musiciens et chanteurs répètent une fois par semaine dans leurs locaux de La Défense et de Val-de-Fontenay. Ils sont encadrés par le chef d'orchestre assistant Joël Soichet, par des musiciens professionnels de l'Orchestre Les Siècles ou par les chefs de chœur Léo Varinsky et Rémi Aguirre-Zubéry pour les chanteurs. Yann Horavietz, violon solo sur ce projet, revient sur ce véritable challenge que représente cette exigence artistique pour le groupe.
C'est des musiciens qui ont bien évidemment des niveaux très hétérogènes, donc du coup... Ce temps est bien nécessaire pour préparer ce cancer. Et la chose la plus extraordinaire, tout simplement, c'est de les voir grandir, de les voir se dépasser. Et par moments, voilà, avec des morceaux qui, au début de l'aventure, nous paraissent presque insurmontables. Et voilà, de les voir et accompagner jusqu'au bout, c'est pour moi, je crois, une chose la plus extraordinaire, de voir, voilà.
Mais le but reste de donner envie à chacun de pratiquer la musique quotidiennement. Playing Philharmonie s'ouvre ainsi à un grand nombre de participants, même si victimes de leur succès, les professionnels sont parfois obligés d'appliquer certaines sélections.
Maintenant, il y a un système d'audition qu'on a instauré. Donc, on écoute tous les chanteurs. Alors, les critères sont très simples. En fait, on teste naturellement la motivation des gens, mais ça ne pose pas de problème généralement. On teste aussi juste leur écoute, leur oreille. C'est ça qui est important. Leur capacité à chanter juste, leur réactivité aussi. Le but, c'est vraiment d'accepter le plus grand nombre possible de personnes et d'assurer un renouvellement à plus de moitié du chœur tous les ans. Donc là, il y a à peu près, je dirais, 120 chanteurs qui ont déjà participé à Playing for Philharmonie, mais il y en a 120 qui vont vivre cette expérience pour la première fois.
Et la richesse de cette aventure fait naître des vocations, comme le rappelle le chef de chœur Léo Varinsky.
Il y a autant d'aventures dans ce projet que de personnes qui y vivent. En fait, chacun y prend ce qu'il veut et ce qu'on a comme retour est extraordinaire. Il y a des vocations qui se naissent, il y a des gens qui se mettent à l'instrument, des gens qui se mettent au chant aussi, qui prennent des cours de chant. Il y a des très belles voix qui se sont révélées dans ce projet.
Et tout le monde s'y mêle. Lorraine, par exemple, abandonne l'instrument de son enfance, la flûte, pour commencer le trombone. La directrice de la communication a, elle, commencé le violoncelle cet été.
Cette année, je me suis dit que le challenge, et j'ai écouté François-Xavier Roth, qui pousse beaucoup les amateurs à essayer des choses différentes. Et donc effectivement, je me suis mise au violoncelle en début d'année et je commence dans... J'ai ma première répétition dans une semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de stress et beaucoup de questionnements sur ce que ça va donner en live, mais quelque part... Je sais que je suis bien entourée et je sais qu'il y a une vraie bienveillance de la part des musiciens des siècles. Et donc, je compte sur eux pour m'accompagner au mieux.
Le stress de la première représentation est donc partagé par tout le monde. On a hâte de voir le résultat. Alors, rendez-vous les 6 et 7 décembre 2020 à la Philharmonie de Paris sous la direction de François-Xavier Roth pour cette 5e édition de Playing for Philharmonie.
Merci beaucoup, Lucie, pour ce reportage. À très bientôt. Les danses polovtsiennes, extrait du Prince Igor, unique opéra d'Alexandre Borodine, interprété ici par le chœur Marinsky, l'orchestre philharmonique de Radio France et Pavo Hirvi. Il est 8h30. C'est l'heure de la chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier Dupin.
Bonjour Saskia.
Où nous emmenez-vous ce matin ?
Nous allons dans les Hauts-de-France. Nous retrouvons des collégiens et lycéens engagés dans un magnifique projet choral qui est intitulé Chantons baroque. Ces réalisations sont le fruit d'un partenariat entre 16 établissements de l'Académie de Lille et le Concert d'Astrée, ensemble baroque dirigé par Emmanuel Haïm en résidence à l'Opéra de Lille.
L'originalité de ce projet pédagogique, Marc-Olivier ?
Alors tout d'abord le répertoire. On pourrait imaginer que des ados qui consomment à haute dose la pop, du rock et de la variété soient bien loin de ce répertoire baroque. Or, il n'en est rien. Leur goût et celui de leurs enseignants pour ces chefs-d'œuvre anciens est remarquable. La distance de quelques siècles s'en trouve abolie. Les élèves acquièrent ainsi une vision dépoussiérée du patrimoine et de notre histoire. Cet intérêt pour la musique baroque a peut-être aussi une explication qu'évoquait Gustave Léonard. Gustave Léonard trouvait que le langage harmonique de la pop et du rock était proche de celui de Rameau. Voilà un beau sujet pour une leçon d'improvisation de Christophe Chassol.
Bien oui, on lui dira.
Mais la force du projet Chantons baroque tient aussi à la qualité de l'encadrement du concert d'Astrée avec un travail soutenu dans la durée, des actions de formation des enseignants de l'éducation nationale et de nombreux regroupements d'élèves des 8 collèges et 8 lycées impliqués. Ce sont environ 500 jeunes qui sont concernés.
Alors pensez-vous que de telles actions éducatives puissent être généralisées ?
Oui et non. Non, dans la mesure où il n'y a pas nécessairement des ensembles de musique baroque de la qualité du concert d'Astrée en résidence dans chaque académie. Mais les résidences se développent sur l'ensemble du territoire, dans tous les styles de musique. Classique, jazz, comédie musicale, musique de tradition orale. Le succès du plan choral souhaité par les ministres de l'Éducation nationale et de la Culture repose grandement sur ces longs compagnonnages entre les élèves, les professeurs et les artistes.
Merci Marc-Olivier. Nous allons écouter encore ces chœurs de l'Académie des Hauts-de-France ici dans un extrait du Messie avec le concert d'Astrée évidemment. Merci beaucoup Marc-Olivier. À la semaine prochaine.
Merci Saskia.
Alléluia, extrait du Messie de Handel, interprété par les chœurs de l'Académie des Hauts-de-France, le concert d'Astrée et Camille Tristam à la direction. 8h36, juste avant d'accueillir notre invité du jour, nous allons écouter la soprano Mariana Flores et le luthiste Hopkinson Smith réunis au disque sur cette nouveauté apparaître dans quelques jours chez Naïve. Le titre de ce nouveau disque, Dolan devient du cœur, disque monographique consacré donc à John Dolan, où le luth embrasse la voix. En voici un extrait.
Come away, come sweet love, the morning breaks, Olivia, Olivia, of love and pleasure speaks, it unopens the door and breaks, and sweet lips to kiss and makes our souls in your joy bliss. Eyes were made for pure disgrace, viewing ruin of slow time, broke out by beauty's rude stain. Come away, come sweet love, the golden sun through his spear, his fiery arrows cast, make all the shadows fly. Makes the roof to entertain the stealth of love. In the sight of let us fly, fly, die.
Comme Sweet Love de John Dolan. Nous écoutions ici en duo Mariana Flores et Hopkinson Smith un extrait de ce disque apparaître dans quelques jours chez Naïve. 8h39, c'est l'heure d'accueillir notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et ce week-end, ce sont les journées du patrimoine, bien sûr. 17 milieux relatifs au patrimoine des spectacles, de la musique, de la danse et de différentes formes de divertissement nous ouvrent leurs portes. Et parmi les lieux qui participent en région, il y a de magnifiques opéras à théâtre et il y a l'Opéra de Lille. Bonjour Caroline Sonrier.
Bonjour Saskia.
Vous êtes directrice donc de cette grande maison, de cette Opéra de Lille. Vous fêterez bien sûr les journées du patrimoine. Ce sera demain de midi à 18h. Que pourra-t-on voir? Que pourra-t-on découvrir? Qu'y a-t-il de si spécial à l'Opéra de Lille?
Oui, alors évidemment, on participe toujours à ces journées du patrimoine et c'est aussi toujours l'occasion de montrer un opéra qui n'est pas un musée, mais bien un bâtiment vivant de musique et de danse. Et évidemment, toujours en lien avec l'actualité. Et là, ce seront des jeunes étudiants du département de musique ancienne du Conservatoire de Calais qui vont venir jouer des extraits d'œuvres de Purcell, puisque nous allons ouvrir la saison avec un opéra de Purcell qui est The Indian Queen. Voilà, donc ils vont jouer quelques extraits de d'autres opéras, King Arthur, Fairy Queen, etc. Il y aura deux petits ensembles et des concerts qui vont être donnés tout au long de la journée.
Et lors de la visite de l'opéra, donc les visiteurs peuvent déambuler dans les couloirs de ce magnifique opéra italien d'architecture néoclassique pour découvrir à la fois le bâtiment et puis ces jeunes élèves du département musique ancienne du Conservatoire de Calais, bien sûr. Mais pour cette occasion, Caroline Sorier, à l'occasion de ces journées du patrimoine, vous avez également concocté 3 visites participatives. Oui. Alors là, on est dans toute autre chose, pardon. Vous avez commandé ces visites au chorégraphe David Roland. C'est une happy manif, une manifestation joyeuse, si je peux le traduire.
Voilà,
de quoi s'agit-il?
C'est un projet que David Roland a développé déjà dans d'autres espaces. Et ça m'a donné l'idée de lui passer une commande spéciale pour l'Opéra de Lille, où le public est équipé de casques et peut faire une visite guidée, où on lui raconte à la fois ce qu'est le bâtiment, mais aussi ce qu'on y fait, les métiers de l'opéra, mais avec des petits moments un peu participatifs qui forment des petites chorégraphies. C'est très, très réjouissant. C'est vraiment accessible à tout le monde. Mais c'est vraiment une façon très, très réjouissante et très originale de montrer l'opéra, de le montrer de façon à la fois chorégraphiée en musique et de façon participative et voilà, accessible à tous. Donc on va le donner 3 fois demain.
Ce sera à 10h, 11h30 et 17h30.
Et sur réservation, parce que bon, il reste quelques places, mais il faut bien penser à réserver. Mais on va le redonner également à d'autres rendez-vous tout au long de l'année. On va également le faire aussi pour des groupes scolaires. Voilà, donc c'est une commande évidemment que je pense qu'il y aura beaucoup de succès, donc on va pouvoir la renouveler.
Alors ça, c'est à partir de 8 ans. Il faut donc s'inscrire sur le site www.opera-lille.fr. Visite, je le disais, à 10, 11h30 et 17h30. Pour la visite libre de l'opéra, là, il ne faut pas réserver. Par contre, c'est ouvert de midi à 18h.
Absolument.
Finalement, l'Opéra de Lille a un slogan. Ce slogan, c'est « Entrer à l'Opéra ». C'est finalement une maison qui est ouverte au public tous les jours de l'année, sans exception, Caroline Fourier.
Mais non, malheureusement. Mais non, puisque bah, évidemment, un opéra, c'est aussi fait pour répéter, pour monter les productions, pour aussi les démonter. Donc, il y a toujours beaucoup de journées de travail qui nous permettent pas d'ouvrir l'opéra. Alors, pour autant, on essaie de l'ouvrir de façon un peu exceptionnelle et qui a été aussi un peu la marque de fabrique ou l'originalité, en tout cas, de l'Opéra de Lille, avec ce qu'on a appelé justement les Happy Days, qui sont des week-ends pendant l'année, qui sont ouverts gratuitement au public. Et donc, justement, où on va reproposer à chaque fois ces visites intitulées Happy Manif, et où il se passe des petits concerts, des petits spectacles, des installations, des jeux dans tout le bâtiment de l'opéra. Donc ça, évidemment, c'est des moments qui sont toujours très réjouissants, qui ont toujours un très, très gros succès. Ça s'est pas ralenti depuis 20 ans. Donc évidemment, c'est des moments que l'on souhaite pouvoir préserver pendant l'année, puisque bah oui, comme toutes les maisons d'opéra, c'est une maison qui est ouverte pour les spectacles. Donc ces moments-là, bah évidemment, l'opéra doit être fermé pour pouvoir préparer, répéter, pour que les spectacles soient vraiment le mieux présentés possible et au public le plus large possible. Voilà.
Never, never, no, never, never.
Un extrait de The Indian Queen d'Henry Purcell, interprété ici par l'Académie de musique ancienne. Christopher Wood à la direction. Extrait de cette œuvre qui viendra ouvrir la nouvelle saison de l'Opéra de Lille. Caroline Sanrier, directrice de l'Opéra de Lille, est notre invitée ce matin. Première de cet opéra, ce sera le 5 octobre, dans une mise en scène de Guy Cassier et puis une direction d'Emmanuel Haïm avec le concert d'Astrée, des musiciens qui sont en résidence depuis un moment, depuis 2004 à l'Opéra de Lille. C'est évidemment un petit peu fait exprès de commencer avec Emmanuel Haïm et le concert d'Astrée, j'imagine, Caroline Sanrier.
Oui, c'est un peu la tradition que notre saison s'ouvre toujours avec un opéra baroque. Évidemment, on est toujours très, très heureux de pouvoir retrouver cet ensemble formidable et avec des projets toujours très, très variés, très, très différents. Et là, avec un opéra qui est quand même très, très particulier, puisque ça fait partie de ces semi-opéras ou masques anglais, donc où ce sont à la fois des pièces de théâtre et des opéras. Donc c'est évidemment très, très particulier. Et ça l'est d'autant plus pour cette Indian Queen qu'il n'a jamais été remonté. Telle quelle, donc c'est une vraie reconstitution en fait.
Redécouverte.
Voilà, puisqu'on aura toute la partie parlée, du texte parlé, donc avec des comédiens, et toute la partie évidemment chantée d'Indian Queen, là qu'on connaît mieux, puisqu'il y a eu plusieurs enregistrements qui existent. Et donc tout ça dans un esprit évidemment de reconstitution, mais avec une vision, la vision extrêmement contemporaine de Guy Cassier, qui travaille beaucoup avec la vidéo, et là il y a tout un dispositif d'écran assez fascinant. Voilà, donc on est en plein travail en ce moment, justement sur cette production.
Et ce sera donc à découvrir à partir du 5 octobre à l'Opéra de Lille. Peut-être étiez-vous déjà à l'écoute, Caroline Sanrier, de l'émission il y a quelques minutes. On parlait justement de ce concert d'Astrée d'Emmanuel Haïm qui mène un projet avec l'Académie des Hauts-de-France, projet pédagogique. Donc l'Opéra de Lille, lui aussi, est très présent sur ce terrain-là avec des ateliers pour enfants, des festivals pour les plus jeunes, des ateliers de danse par enfants. C'est une volonté, ça aussi, de continuer à ouvrir les portes de l'Opéra de Lille ?
Oui, c'est ouvrir les portes de l'Opéra de Lille et à la fois aussi aller à la rencontre du public. Donc effectivement, on a tout un ensemble de projets qui s'adressent aux enfants, aux adolescents ou aux adultes dans ce cadre-là. Mais on a créé en 2015 un nouveau projet qui est de créer des ateliers réguliers, donc hebdomadaires, dans 18 communes de la région, des quartiers plutôt défavorisés, en tout cas un public qui est a priori très, très éloigné de ce que l'on peut faire à l'opéra. Et donc d'aller vraiment chaque semaine pour créer des ateliers de pratique vocale pour des enfants et de façon à créer un lien avec ces enfants, mais aussi avec leur famille et leur entourage. Et donc, on a tout un ensemble, évidemment, d'actions autour de ces ateliers eux-mêmes, avec des concerts, avec tous les ans un grand concert ou un spectacle, un opéra qui se fait à l'Opéra de Lille. Donc, c'est tout un lien qui se crée avec tout ce nouveau public et qui est passionnant. C'est passionnant autant, je dirais, du point de vue artistique, parce qu'on arrive à des choses magnifiques, que du point de vue humain, avec cette relation qu'on a pu créer avec aujourd'hui. Donc on a 300 enfants inscrits qui participent à ces ateliers.
Quelle est la réaction la plus surprenante que vous avez reçue d'un de ces enfants, Caroline Sanrier ?
J'ai envie de parler d'une anecdote, parce qu'effectivement, on avait fait une petite radio-trottoir comme ça, et puis on espérait que les enfants allaient nous dire combien ils trouvaient ça absolument incroyable. C'était à la sortie d'une répétition d'un opéra. Il nous a juste fait remarquer qu'il n'aimait pas les madeleines, parce qu'au goûter, il y avait des madeleines. Donc voilà, c'est toujours des réactions, évidemment, qui sont pas du tout les réflexions que l'on peut avoir entre professionnels. Qu'est-ce que tu as pensé de cette répétition, de ce spectacle? Et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que justement ce regard des enfants complètement neufs
et dénué d'a priori.
Voilà, et dénué d'a priori, et à la fois, une espèce d'émerveillement, mais surtout de curiosité permanente. Et puis extrêmement courageux, parce que on leur demande beaucoup de travail. Quand on monte un opéra, c'est quand même énormément de répétitions, c'est quand même énormément de déplacements pour qu'ils viennent justement jusqu'à l'Opéra de Lille pour les dernières répétitions. Et ce sont des enfants qui sont très courageux, qui se plaignent absolument jamais. Voilà, avec des yeux brillants quand on leur demande justement d'atteindre une certaine forme d'excellence, et qu'on leur fait aussi sentir ce que c'est que l'interprétation, ce que c'est que d'apporter quelque chose de personnel à une œuvre et que c'est pas seulement quelque chose que l'on consomme comme ça. Voilà. Donc c'est cette approche vraiment, vraiment artistique.
L'Opéra de Lille, une maison vivante et ouverte à tous et à toutes, évidemment. Caroline Sanrier, je rappelle les journées du patrimoine, l'ouverture de la maison, ce sera demain à partir de midi. Pour participer à la Happy Manif, il faut s'inscrire sur le site www.opera-lille.fr. Vous y trouverez aussi toute la programmation de cette nouvelle saison. Merci beaucoup, Caroline Sanrier, d'avoir été des nôtres ce matin.
Merci à vous. Et puis, bon week-end du patrimoine.
Évidemment, nous fêterons ça. Et puis, merci aussi à l'équipe de France Bleu Nord d'avoir rendu ce duplex possible. Bonne journée, à très bientôt. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les projets pédagogiques de l'Opéra de Lille, sur ses activités, eh bien, elle porte un nom. Il s'agit du projet Fine Oreille. Rendez-vous sur le site www.opera-lille.fr. L'ouverture des Noces de Figaro de Mozart interprétée par René Jacobs et le Concerto Köln. 8h54, l'heure de retrouver Roselyne Bachelot. Comme chaque samedi, bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Et vous nous proposez de repartir en vacances ce soir avec France Musique.
Oui, ce soir avec France Musique, parce que la température estivale de ce mois de septembre nous y invite. Et surtout, le 150e anniversaire de la mort d'Hector Berlioz nous y oblige. Ce soir, nous allons au Festival de la Côte Saint-André. Depuis 1994, cette petite ville de l'Isère, ville natale d'Hector Berlioz, est devenue un rendez-vous incontournable des mélomanes, réunissant les interprètes les plus prestigieux autour des œuvres du grand Hector, mais également d'autres compositeurs. Le directeur musical Bruno Messina poursuit une action résolue de démocratisation de la culture avec de nombreux concerts gratuits, mais aussi la promotion de jeunes talents. C'est ainsi que le 25 août dernier s'est produit un orchestre académie, le jeune orchestre européen Hector Berlioz Isère, avec des jeunes venus de toute l'Europe. Encadré par les professionnels de la formation Les Siècles, le chœur de l'Orchestre de Paris sous la direction inspirée de François-Xavier Roth. Dans la commune natale de Berlioz, donc, les concerts ont lieu dans la cour du château Louis XI, comme celui du 25 août que nous entendrons ce soir, mais aussi dans la halle médiévale ou sous le balcon du musée dédié au grand homme. Mais on va revenir à cette soirée. Vous entendrez donc la prise de Troie, c'est-à-dire l'acte 1 et 2 de l'œuvre monumentale de Berlioz, Les Troyens. C'est peu de dire, Saskia, que cet opéra a reçu un accueil mitigé. Grand admirateur de Virgile, à qui d'ailleurs il est dédié, Divo Virgilio, au divin Virgile, dès sa prime jeunesse, Hector est envoûté par l'Énéide, tout spécialement par l'épisode de la mort de Didon. Mais en 1856, il commence une œuvre d'une longueur impressionnante, 5 heures. Ça exige un casting foisonnant, une mise en scène compliquée, ça multiplie les rôles éprouvants. Il est donc refusé par l'Opéra de Paris. Le Théâtre Lyrique donne en 1863 les Troyens à Carthage, les trois derniers actes. Une fausse intégrale, pas vraiment complète, en 90 à Karlsruhe. Et il fallut attendre 1901, près de 70 ans après la composition, pour que la première intégrale de l'œuvre soit donnée à Rouen, au Théâtre des Arts. Encore aujourd'hui, sous couvert d'un intitulé globalisant les Troyens, les plus grandes maisons ne se gênent pas pour se livrer à une production amputée de regrettables coupures. Je me souviens, en janvier dernier, la dernière mise en scène par Tcherniakov à l'Opéra de Paris, des coupures, et on entendait dans la salle les aficionados crier « Et encore une coupure !» Alors, vous jugerez ce soir sur France Musique, au travers de ces actes 1 et 2, l'incroyable richesse orchestrale, la révolution rythmique qu'a constitué les Troyens. Ils seront servis donc par la direction de François-Xavier Roth, distribution dominée par le rôle de Cassandre, éprouvant, c'est Isabelle Druet, à ses côtés Mirko Rochlovski, Aîné, Thomas Dollier, Koreb, Boris Grapp, Panté, Vincent Le Texier, Priam, Éléonore Pancrazi, Ascagne. Inutile de vous rappeler l'argument, tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie. Je vous parlais de rôle éprouvant, Cassandre évidemment, hein, qui est sur la scène de façon continue, mais le surgissement du ténor au pas de course dans la septième scène est un monument et il attaque tout de suite en racontant la mort de Laocoon, enchaîne sur l'octuor. Voici donc l'entrée d'Aîné par Mirko Rochkovski et vous aurez l'intégrale ce soir,
bien
évidemment.
Sûr, sur France Musique avec Judith Chêne. Merci beaucoup Roselyne Bachelot, on se quitte en musique donc. Je vous souhaite une très belle semaine.
Et à la semaine prochaine.
Bien évidemment. Un extrait de cette prise de Troie, extrait des Troyens d'Hector Berlioz à découvrir donc sur France Musique ce soir. 8h58, en attendant, il va se passer plein de choses sur France Musique, évidemment. Un petit mot peut-être d'abord sur le concours de ce matin. Je vous proposais de gagner des places pour le Festival Baroque de Pontoise, pour cette parodie d'Attis de Lully. Spectacle programmé le 4 octobre au Théâtre du Figuier Blanc à Argenteuil. Ce matin, je vous demandais de deviner le nom du librettiste de l'opéra Attis de Lully. Il s'agit bien de Philippe Quinault. Les gagnants seront recontactés, bien évidemment, par email très prochainement. Merci à Marie-Ferdinand, Laurent Lefrançois, Pierre Monteil, Adelino Mello et Emmanuel Rose qui ont rendu cette émission possible. Je vous souhaite une très belle journée. À la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.